Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Nous poursuivons aujourd'hui notre découverte de l'exégèse. Elle permet d'analyser les textes bibliques. Comment l'exégèse a-t-elle évolué au fil du temps? Que propose-t-elle aujourd'hui? Pour parcourir l'histoire de l'exégèse, nous sommes avec le frère Renaud Silly, dominicain de la province de Toulouse, docteur en théologie et spécialiste d'exégèse biblique. Bonjour frère Renaud. Vous avez dirigé les travaux de l'école biblique de Jérusalem pour l'élaboration du dictionnaire Jésus, publié en 2021. Merci de votre venue aujourd'hui sur Radio Présence. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les origines de l'exégèse ne concernent pas la Bible, mais Homer. Expliquez-nous frère Renaud.
Oui. En fait, l'exégèse, c'est un commentaire. Donc, ça suppose que le texte soit considéré comme intouchable, en quelque sorte, qu'on lui donne un statut particulier et qu'aussi on ait une conscience d'une certaine distance par rapport à lui, distance dans le temps, qui fait qu'on ne comprend plus forcément certaines situations, le sens de certains mots. Et donc, ce rapport au texte, semble-t-il, est apparu avec les Grecs, en particulier au moment des conquêtes d'Alexandre, lorsqu'il a voulu, il a suscité en fait un grand mouvement culturel pour fonder une civilisation nouvelle, qu'on appelle la civilisation hellénistique. Et ce monde s'est cherché quand même des sources littéraires incontournables, et pour ça, c'est Homère qui était la référence obligée. Et donc, à Alexandrie, hein, cette célèbre ville d'Égypte, est née vraiment l'exégèse, au sens où il y a des savants qui n'étaient pas eux-mêmes des auteurs, mais des commentateurs qui ont vraiment édité le texte, qui avaient été un peu interpolés au fil du temps. On avait ajouté des gloses dans les marges, c'est des phénomènes tout à fait courants encore au Moyen-Âge. Donc, ils ont expurgé le texte des interpolations postérieures. Ils ont édité, lorsqu'il pouvait y avoir, semble-t-il, des fautes de copie, et donc commencé à proposer des commentaires quand on parle dans l'Iliade des Myrmidons, ces hommes qui descendraient des fourmis, hein, et dont Achille était le roi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Enfin, voilà, vous voyez, c'est vraiment dans ce contexte que c'est né. Aussi avec le désir, sans doute, de faire d'Homère la base d'une culturelle de toute une civilisation avec Alexandre, ne concernait pas seulement les Grecs, mais aussi tous les peuples que les Grecs ont absorbés. Et donc, on comprend dans ce contexte comment il fallait aussi expliquer pour des Syriens, des Égyptiens, des Juifs, d'ailleurs, puisqu'ils faisaient partie en fait, de cet univers absorbé par les Grecs. Il fallait que les textes soient rendus disponibles. Et c'est comme ça que l'exégèse scientifique est née.
D'accord. Donc l'exégèse scientifique, elle est née avec Homère. Et puis après, on est arrivé à deux écoles d'exégèse, si on peut dire, celle d'Alexandrie et celle d'Antioche. Qu'est-ce qu'elles apportent chacune en particulier?
Voilà. Alors donc là, on fait un petit saut dans le temps, déjà de quelques siècles. Hein, les Juifs eux-mêmes se sont emparés de ces méthodes qui sont venues des Grecs. Ils ont édité leur propre Bible, hein, là aussi avec en expurgeant peut-être de l'interpolation, etc., les mêmes phénomènes. Et puis dans le monde chrétien, l'exégèse a commencé tout de suite, déjà dans le Nouveau Testament, hein, il y en a. Il y a déjà des explications des textes anciens chez Saint Paul, même dans les évangiles. Même le Christ aussi en propose, en fait. Ce que vous mentionnez, les deux écoles d'Antioche et d'Alexandrie, à Alexandrie, c'était une véritable école, puisque, semble-t-il, il y avait vraiment une institution qui était chargée d'expliquer la parole de Dieu et de la transmettre.
Ces personnes qui étaient chargées d'expliquer la parole de Dieu, qui étaient-elles?
Alors, on connaît des noms. Le plus célèbre, c'est Origène, hein, qui est donc un des premiers commentateurs systématiques. C'est un des premiers à livrer des commentaires des livres bibliques entiers Mais simplement, il n'est pas le premier. Hein, ça existait déjà avant lui. Ça a commencé à se former, même s'il est sans doute le plus grand. Là, on sent en fait qu'en rapport avec l'évêché d'Alexandrie, qui était dans déjà un très très grand diocèse, donc bien pourvu aussi d'intellectuels, de gens capables, formés justement aux méthodes qui avaient vu le jour à Alexandrie quelques siècles plus tôt. Il y a une continuité tout à fait évidente. Cette école a pu vraiment se former et produire des travaux systématiques. Antioche, en revanche, là, on estime que ce n'était pas une école stricto sensu, mais des individus qui pouvaient être liés par des raisons plutôt personnelles, de formation, etc. Quelle est la grande différence entre les deux ? Eh bien, c'est que aujourd'hui, l'école d'Antioche est très à l'honneur, puisque c'était vraiment des philologues, hein, au sens où c'était des gens qui voulaient se cantonner, en quelque sorte, à l'explication littérale de la Bible, la plus précise possible. Donc élaborer le sens des mots, bien comprendre, etc. Alors que l'école d'Alexandrie avait une vision plus globale, en quelque sorte de vouloir situer chaque texte dans le contexte plus général de toute l'écriture, ce qui fait que les auteurs alexandrins faisaient beaucoup de résonance entre l'Ancien et Nouveau Testament, par exemple. Assez volontiers, ils interprétaient l'Ancien Testament de manière allégorique, comme prophétisant le Nouveau. Quand, par exemple, on parle d'Exode, hein, du passage du paganisme à la vraie foi, ou de cette terre à la terre promise, eh bien, tout cela prenait dans l'exégèse d'Alexandrie une signification allégorique pour désigner les mystères même chrétiens eux-mêmes.
Et quand on regarde aujourd'hui ces deux écoles, l'école d'Alexandrie et l'école d'Antioche, avec ces deux approches, qu'est-ce qui paraît le plus ajusté ?
En fait, non, il ne faut pas choisir. Voilà, les deux sont absolument indispensables. D'ailleurs,
et complémentaires.
Et complémentaires. Justement, c'est ça, c'est la richesse. On sent qu'il y a eu une sorte d'émulation, si vous voulez. Parce que c'est sûr que pour les savants aujourd'hui, qui parfois qui étudient la Bible de façon non conventionnelle, l'école d'Antioche est plus intéressante, au sens où elle leur apporte davantage de données objectives, hein, sur les mots, justement, en dégageant un petit peu les textes de leur interprétation chrétienne, de leur assimilation dans la foi. C'est pour ça que cette école d'Antioche, elle était très valorisée, en particulier au XXe siècle. Mais l'école d'Alexandrie est aussi importante. Enfin, les deux sont en fait incontournable.
D'accord. Dans l'école d'Alexandrie, vous avez dit qu'il y avait notamment Origène. Est-ce qu'il y a une figure très précise, très marquante pour l'école d'Antioche ?
Oui, le plus marquant, il s'appelle Théodore de Mopsueste. Hein, donc, c'est une ville de Syrie. Je vous donne un exemple. Par exemple, les Alexandrins disaient volontiers que l'écriture, parfois, n'a pas de sens littéral, parce que les mots ne veulent rien dire. Et donc, c'était l'occasion pour basculer vers l'allégorie. Oui. Par exemple, que les fleuves battent des mains. Voilà, bon. En effet, on se dit, est-ce que les fleuves ont des mains ?
Oui. C'est vrai que
ça surprend. Ou alors, dans le psaume, quand on dit « délivre de la patte du chien, mon unique », bon, c'est assez étrange. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon. Et alors, donc, Théodore de Mopsueste disait « il ne faut pas basculer tout de suite dans les pieds joints dans l'allégorie ». Il faut reconnaître que la poésie de l'hébreu, elle a son langage figuré à elle. Et que peut-être ça ne fait pas de sens du point de vue de la référence précise, mais néanmoins ça veut dire quelque chose, y compris littéralement. Voilà. Okay. Et qui est peut-être justement de la poésie, le charme de la langue elle-même, enfin, que sais-je. Bref, vous voyez, cette approche en quelque sorte terre à terre, hein, que promouvait Théodore de Mopsueste, elle est un rappel aussi que l'écriture est une composition humaine, et que donc elle a son charme aussi du point de vue purement poétique et de la beauté même littéraire qui l'anime, et pas uniquement en tant qu'elle dit les mystères de foi.
Oui. Oui. Alors, on continue notre saut, notre fresque historique. On saute de l'Antiquité au Moyen-Âge. À cette époque apparaît la théorie des quatre sens de l'écriture. Quelle est cette théorie, frère Renaud Silly ?
Voilà. Alors, On peut dire que la théorie des quatre sens de l'écriture a sa source chez Origène, hein, justement celui que nous avons déjà cité. Mais elle devient vraiment presque systématique au Moyen-Âge. Ça a été étudié de façon magistrale par le père de Lubac, qui a consacré vraiment des travaux à la fois à Origène et justement à ce développement de sa propre théorie du sens. Quatre sens. Le premier, c'est le sens littéral, c'est-à-dire ce que dit la suite même des mots, en quelque sorte. Qu'on appelle sens littéral ou sens historique, au sens où c'est celui qui procède de la lecture du texte considéré en lui-même.
Lecture première, vraiment brute.
Brute, mais du coup, c'est celui qui est... C'est comme ça, hein, c'est très important le sens littéral, puisque c'est celui où apparaissent les rapports logiques entre les mots, voilà. Et où le sens premier est incontournable. Sinon, les mots ne deviennent plus que des espèces de figures, presque comme des images. Or, ce n'est pas ça. Hein. Le sens jaillit du sens littéral des mots. C'est logique. Hein, lorsque vous dites un four, peut-être que vous voulez dire un film qui n'a pas eu de succès, ou vous voulez dire un objet qui a servi à cuisiner. Bon, bref, les mots ont un sens. Hein. Et donc, il faut bien partir de ce sens pour savoir ce que les textes disent.
Donc ça, c'est le sens littéral.
Donc le sens littéral, est vraiment absolument incontournable. Ensuite, il y a les sens spirituels, qui sont en fait au nombre de trois. Il y a donc le sens qu'on appelle allégorique, qui veut dire, c'est le sens christologique, c'est-à-dire, je donnerai quelques exemples après, l'accomplissement dans le Christ, hein, d'une théorie de l'Ancien Testament, par exemple. Le sens moral, c'est-à-dire ce que le texte peut signifier du point de vue de notre conduite personnelle. Le sens qu'on appelle anagogique, c'est-à-dire celui qui nous élève vers les fins dernières.
La dimension eschatologique,
voilà. Donc, si on dit Jérusalem, par exemple, dans l'Ancien Testament, eh bien, on peut désigner, bien sûr, la ville capitale du roi David. Hein, ça, c'est le sens littéral. Au sens moral, ce serait notre cité intérieure. Hein, en quelque sorte, ce lieu où Dieu règne. Hein.
Donc l'âme.
L'âme. Notre âme, oui, puis notre intériorité. C'est-à-dire le lieu où nous vivons dans la seigneurie de Dieu. Hein. L'idée que nous sommes une ville est quelque chose de logique, puisqu'après tout, il y a des parties en nous qui doivent se correspondre. Hein. Cette comparaison entre la ville et l'individualité personnelle, on la trouve déjà chez Platon. Donc, on peut tout à fait penser que Jérusalem désigne notre cité intérieure, au sens moral. Au sens christologique, c'est l'Église, bien sûr, puisque c'est la cité du grand roi, avec le temple au milieu, là où le peuple de Dieu est rassemblé. Donc c'est Sion, hein, c'est au sens qu'on appelle donc allégorique, c'est l'Église. Et puis au sens anagogique, c'est-à-dire eschatologique, eh bien, c'est la Jérusalem du ciel, notre patrie d'en haut, celle qui descend d'auprès de Dieu, comme on a dans le livre de l'Apocalypse. Vous voyez déjà dans l'Écriture elle-même, déjà Jérusalem a cette variété de sens. C'est quatre sens distincts. Cette théorie, elle est extraordinaire, parce qu'en fait, là où elle est une très grande fécondité, c'est qu'elle relie les textes entre eux. Vous voyez, par exemple, il y a aussi un autre lieu qui est, on parlait tout à l'heure de l'Exode. Évidemment, l'Exode au sens littéral, c'est la sortie d'Égypte, des Hébreux.
Sortie de l'esclavage aussi.
Au sens littéral, c'est aussi la sortie de l'esclavage. Ouais. Et au sens littéral, c'est aussi le passage du paganisme à la vraie foi. Donc, ce sens littéral, on voit bien qu'il est très riche lui-même. Il comporte énormément de dimensions. Au sens christologique, après tout, la Pâque, c'est quand même celle de Jésus, n'est-ce pas? Et Jésus lui-même a donné ses lettres de noblesse à ce sens christologique, puisqu'il a bien, on dit à la Transfiguration, eh bien, il s'entretient avec Moïse et Élie de son exode qui doit s'accomplir à Jérusalem, et qui est justement donc sa mort et sa résurrection. son passage à la patrie du ciel. Au sens ecclésiologique, l'Exode, c'est aussi la traversée par le peuple de Dieu de toute l'histoire, avec la mer, les flots en furie, la poursuite par Pharaon et ses démons. Enfin, voilà. L'Église elle-même est dans un Exode. Elle connaît sa Pâque. Et puis, donc, au sens eschatologique, c'est vraiment les moments derniers où l'assemblée des croyants passera dans la patrie du ciel. Et on voit bien d'ailleurs dans l'Apocalypse en réalité tous ces différents sens. Alors ça ne vaut pas que de l'Exode ou de Jérusalem. C'est qu'en fait l'Apocalypse elle-même est à une reprise de beaucoup 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 d'éléments de l'Écriture selon cette perspective eschatologique. Et alors donc c'est pour ça que quand on distingue les quatre sens, on fait pas du tout quelque chose d'artificiel en plaquant un sens de l'extérieur sur les Écritures. Au contraire, on dévoile des choses qui sont sous-jacentes dans les Écritures elles-mêmes.
Et on les met en lien.
Et on les met en lien. Et donc, parce que, encore une fois, les textes ne sont pas isolés. Ils sont eux-mêmes composés les uns par rapport aux autres et rassemblés en une unité qui leur donne une totalité organique. La théorie des quatre sens, elle est d'une fécondité inouïe. Elle a introduit à quelque chose dont nous parlerons peut-être, mais qui est dans l'insistance du magistère par la suite sur le fait que l'Écriture doit être lue dans l'esprit même qui l'a inspiré. Cette invocation d'un sens spirituel, il est incontournable pour la vie de l'Église en fait même.
D'accord. Est-ce que c'est ce qu'on appelle cette expression sola scriptura?
Alors,
non, ça c'est autre chose.
Sola scriptura, ça veut dire c'est l'écriture seule. C'est une notion qui est née dans le contexte de la réforme protestante, même si elle apparaît déjà dans d'autres sens avant, mais pas avec pas la même signification. C'est-à-dire que la réforme protestante, elle a considéré que la tradition faisait écran à l'appropriation directe de l'écriture. Et que donc il fallait réinstaurer ce rapport immédiat du croyant avec les sources de sa foi en l'expurgeant, ce rapport de toutes les scories ajoutées par les commentaires et la tradition de l'Église. Alors ce principe sur la scriptura, il vaut ce qu'il vaut. On peut tout à fait le comprendre dans un sens juste. En plus, on voit bien à l'époque de la réforme protestante, c'est quand même l'époque de l'imprimerie.
Oui.
Et donc, ça veut dire que c'est le moment où se développe la lecture silencieuse de livres qui sont mis à la disposition de tous. Autant, c'est clair que l'expérience biblique des hommes du Moyen-Âge, ou de l'Antiquité d'ailleurs, c'est quand même en grande partie une expérience communautaire.
Oui, avec une lecture à haute voix.
Qui passe par la lecture à haute voix, par la liturgie, par le commentaire autorisé, parce que le mode de vie des anciens est un mode de vie communautaire de toute façon. La fin du Moyen-Âge a connu quand même une évolution importante de la vie, qui est ce qu'on pourrait dire le développement de la vie privée. C'est dans ce contexte qu'est apparue l'imprimerie, qui du coup a permis de s'approprier de manière privée des grands textes qu'on lisait plus à haute voix, mais dans le silence d'un cabinet, d'un bureau, que sais-je.
Et donc là, il fallait quand même mettre des limites sur une interprétation personnelle, c'est ça ?
Voilà, alors du coup, on voit bien que l'interprétation personnelle, en clair, c'était aussi une nouveauté qui était pleine de promesses, bien sûr. Au sens où, on voit bien que cette interprétation personnelle, si elle est purement et simplement abandonnée à elle-même, on sent bien qu'on est très démuni. Vous voyez, par exemple, si vous lisez Genèse 1, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Si vous n'avez aucun guide de lecture, vous dites qu'est-ce qui nous est raconté là? Est-ce qu'on est en train de nous dire que c'est comme ça que Dieu a créé le monde, et que du coup, est-ce qu'il faut croire que le monde a été fait en 7 jours?
Oui.
Parce que la parole de Dieu le dit. Voyez. Bref, cette distance de toute façon qui nous sépare des Écritures exige en quelque sorte une régulation rationnel, hein, de toute façon. Donc c'est pour ça que le principe sola scriptura et le libre examen, il est porteur de belles promesses d'assimilation et d'appropriation personnelle des Écritures, il faut aussi le compléter par l'information.
Oui, bien sûr. Ouais, voilà. Une information qui est donnée par... par ces exégètes,
voilà, voilà, tout
qui,
à fait,
qui permettent d'éclairer.
Et l'exégète, et puis la tradition de l'Église.
Et la tradition de l'Église, évidemment.
Puisque justement, la tradition de l'Église, là où son rôle est incontournable, au sens où c'est bien la tradition de l'Église qui nous permet d'accéder au véritable sujet des Écritures, c'est-à-dire la communauté de l'Alliance, d'Israël et de l'Église. Puisque le lieu où ces écritures trouvent toute leur résonance, ce n'est pas uniquement notre individualité, c'est aussi l'ensemble des fidèles qui sont unis dans cette foi que Dieu nous transmet dans sa révélation.
Et oui, bien sûr, oui, il ne faut pas rester au niveau individuel.
Voilà,
ouais,
c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est aussi là que le sola scriptura a une limite. Hein, c'est qu'on ne peut pas prétendre soi-même savoir quel est le sens des écritures. Mm. Il faut se remettre dans la foi de l'Église, du sensus fidei.
Oui. Alors, je vous propose de marquer une pause, frère Renaud Silly, et puis nous verrons après comment l'exégèse a évolué, notamment au XVIIe, au XVIIIe, et puis après, on verra au XIXe, XXe, avec des textes des différents papes. Je vous propose d'écouter « Viens, sois ma lumière », interprété par Cœur dans la ville.
Viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les cœurs des pauvres. Chez les malades, chez les mourants, allume la flamme de mon amour.
Viens, viens, sois ma lumière, mon feu d'amour, porte-moi dans les cœurs des pauvres. Je les désire et je les aime, donne-moi leurs âmes, j'ai soif d'amour.
Présence.
Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour avec le frère Renaud Silly, dominicain, pour parcourir l'histoire de l'exégèse. Nous avons vu en première partie de cette émission comment l'exégèse était née, notamment avec Homère, et puis après pour la Bible, les deux écoles, l'école d'Alexandrie et l'école d'Antioche. Et puis vous nous avez parlé de la théorie des quatre sens de l'écriture au Moyen-Âge. On ne peut pas ne pas parler de saint Thomas d'Aquin.
Et oui, saint Thomas, saint Thomas a bénéficié d'une évolution importante de l'exégèse, puisque dans son contexte, oui, il y avait des juifs, en fait, hein, des juifs, certains convertis au christianisme, d'autres non, mais qui eux-mêmes scrutaient les Écritures. On pense, par exemple, chez nous, hein, au grand Rashi, rabbin à 3 ou 11e siècle, et qui a une œuvre de un commentaire de l'Écriture absolument incroyable. Parfois très drôle d'ailleurs, puisque lorsqu'il veut donner le sens des mots dans le texte hébreu, dans ses commentaires qui sont en hébreu, vous voyez, on écrivait en hébreu en Champagne au XIe siècle, voilà. Oui. Et bien quand il veut donner le sens des mots, il met un mot français, de vieux français, en disant ce mot-là dans l'hébreu, voilà ce qu'il veut dire. Et là, il vous donne le mot en vieux français, translittéré en alphabet hébraïque. Voilà. Et donc, il y a eu à ce moment-là, dans le monde juif, hein, quand même une tentative très, 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 très précise de scruter le sens des textes exactement. Et à travers des rabbins, des convertis, etc., c'est entré dans le monde chrétien. Et saint Thomas lui-même en a beaucoup bénéficié. Hein. On le voit en particulier, un de ses chefs-d'œuvre dans la matière, c'est le commentaire de Job. Parce que le livre de Job est un livre... Alors déjà très difficile, écrit dans une langue en hébreu baroque, enfin, complexe, et puis surtout qui est rempli de données de sciences naturelles, de zoologie, d'astronomie, alors qui pour nous sont à un autre âge de la science, mais qui dans l'Antiquité était vraiment de la science. On sent que chez saint Thomas, par exemple, un désir de comprendre ça, hein, de la même manière qu'il commente à la même époque les traités sur le ciel d'Aristote ou la génération des animaux. D'une certaine manière, il essaye de comprendre les livres de Job aussi dans cette perspective-là. Un commentaire littéral et vraiment extrêmement précis des données concrètes contenues dans le livre. Et ça, on pourrait dire que c'est un des premiers traités complets à l'échelle de tout un livre biblique, vraiment de cette analyse scientifique, hein, d'un livre en plus qui s'y prête très bien, hein, il faut le reconnaître, du point de vue des sciences naturelles. Alors, évidemment, saint Thomas, c'est un continent de pensée, et donc, lui, à côté de ça, il maniait aussi tout à fait volontiers et parfaitement à l'aise, hein, la méthode des quatre sens, hein, d'ailleurs, dont on trouve chez lui des formulations très, très précises. Bon, voilà. Mais avec lui, on voit apparaître quand même quelque chose d'un peu neuf, qui est cette espèce de cette entreprise systématique. Vous voyez, c'est ça qui est... C'est l'époque où on crée les universités.
Oui.
C'est-à-dire une approche systématique du savoir. Lorsque l'on dit quelque chose, il faut éprouver toutes les hypothèses et toutes les contre-hypothèses. Vous voyez, ça c'est ce paradigme scientifique s'est mis en œuvre à cette époque-là. Il a fait progresser la science de manière absolument incroyable. C'est notre science actuelle est l'héritière de ça, enfin de ce même projet qu'elle a développé avec des données de plus en plus abondantes. Eh bien, peut-être que ce commentaire de Job de saint Thomas est une première tentative systématique d'analyse d'un livre biblique.
D'accord.
Voilà.
Voilà l'apport de saint Thomas d'Aquin. Entre le XVIIe et le XVIIIe, il y a une distance critique et une analyse scientifique qui vont apparaître dans les études bibliques.
Oui, alors... Là, il y a des grands noms, Spinoza, hein, en particulier, donc ce juif hollandais qui a essayé de lire de façon purement rationnelle, pour le coup, vraiment le Pentateuque en particulier. Et puis Richard Simon, hein, une grande figure, un oratorien français, qui a publié une histoire critique du Vieux Testament en 1678, je crois, où en effet il s'essaye, n'est-ce pas, à une analyse littérale des mots, en repérant aussi les contradictions, Par exemple, il y a plusieurs récits où on raconte que Moïse fait jaillir l'eau du rocher. Il y en a une dans le livre de l'Exode et une dans le livre des Nombres. Et donc, Richard Simon dit, en fait, les deux, elles ne sont pas absolument compatibles. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ce ne serait pas le signe qu'il y a divers récits de cet événement qui ont été combinés dans le Pentateuque. Et donc, il posait à travers ça la question des sources du Pentateuque. Hein, c'est-à-dire, à partir de quoi est-ce que les cinq livres de Moïse ont-ils été composés? Est-ce qu'il y a des documents préexistants qui ont été fusionnés et dont la fusion laisse des traces à travers ces petites contrariétés qu'il y a d'un récit à l'autre? Alors, donc, en même temps, vous voyez, cette théorie, elle se voulait scientifique, et puis en fait, elle a fait florès pendant quand même au moins deux siècles. Hein. Donc on a comme ça, on était en quête des sources du Pentateuque, etc. Alors du coup, après, les documents devenaient de plus en plus variés. Bon, voilà. Mais en fait, il faut être conscient quand même que tout ça, ce ne sont que des hypothèses. Et la tendance depuis une cinquantaine d'années, par exemple, ne va pas du tout, plus du tout dans le sens comme ça de la compilation de documents pour le Pentateuque. Et au contraire, justement, on comprend beaucoup plus les deux récits du livre des Nombres, non pas comme deux récits indépendants et opposés, enfin, vaguement contraires, mais au contraire, le deuxième comme une espèce d'explication du premier.
Ah oui, d'accord.
Puisque dans le premier, vous voyez, on dit que Dieu dit à Moïse, « Prends ton bâton, frappe le rocher et tu feras jaillir l'eau. » Et puis dans le deuxième, Dieu dit à Moïse, « Tu diras au rocher, fais jaillir ton eau. Bon. » Et puis Moïse prend son bâton et frappe le rocher. Alors du coup, il ne fait pas ce que Dieu lui a dit dans le deuxième récit.
Il n'a pas donné l'ordre au rocher.
Puisqu'il a pas parlé au rocher, ou plutôt il l'a fait, mais il a aussi utilisé le bâton. Bon. Et or, Dieu ne nous avait pas dit de brandir le bâton. Donc du coup, aujourd'hui, on considère que le deuxième récit est une explication de la désobéissance, entre guillemets, de Moïse, et qui est la raison pour laquelle... Eh bien, il est mort en dehors de la terre promise. Voilà. Et donc, c'est du coup un. C'est là où il faut être quand même prudent, c'est que ces exégèses scientifiques, bon, elles ont leur mérite, mais elles sont fragiles aussi. Hein, voilà. Et donc, les théories, par exemple, de Richard Simon, il avait l'avantage, en effet, de souligner un certain nombre de problèmes, mais le problème, c'est que les solutions qu'il proposait étaient très, très, très insatisfaisantes. Il n'y en a pas une seule qui tienne aujourd'hui.
Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, si on avance encore, on arrive à l'encyclique de Léon XIII, Providentissimus, pardon, en 1893. Elle éclaire les travaux exégétiques.
Oui. Alors, en fait, disons que sait que la vérité de foi est contenue dans l'Écriture, mais il y avait une théorie qui était assez répandue au XIXe siècle, qui était que... en fait, ce qui était inspiré, c'était strictement sensu, c'était des parties. C'est-à-dire que, par exemple, quand Isaïe dit « Voici que la Vierge concevra », ça se serait inspiré, parce que ça dit directement quelque chose qui est une vérité de foi. Voilà, bon. Et donc, ces parties inspirées surnageraient au milieu de parties qu'il serait moins, beaucoup moins. Et donc, c'est quand même très insatisfaisant comme théorie, parce qu'en quelque sorte, qu'est-ce que c'est que ce principe
où Dieu inspire le choix,
pas là,
voilà, c'est ça.
Comme si l'inspiration, c'était à éclipse. Quoi.
un éclair de génie, et puis voilà, à un moment, il n'y a plus de lumière.
C'est assez curieux. Mmh. C'est une conception qui est presque matérialiste, en fait, de la révélation. Et Providentissimus est un texte qui a vraiment libéré ça, avec ce qu'on appelle la théorie instrumentale de l'inspiration, c'est-à-dire que c'est l'auteur sacré qui est l'instrument de Dieu, et un instrument bien entendu animé, parfaitement autonome et libre, etc. Mais Dieu se sert de lui comme d'un instrument. Et donc ça veut dire que tout ce qu'il écrit est écrit sous ce régime d'instrument de la révélation. Et du coup, la Providentissimus permettait quand même d'affirmer l'intégrité du processus humain de composition des textes, tout en le subordonnant
à l'action de Dieu,
l'action de Dieu, donc une action instrumentale. Vous savez que Et la théologie de saint Thomas définit l'humanité du Christ comme instrument de sa divinité. Donc c'est pas un outil comme un marteau.
Hein. Oui, oui, oui.
C'est un instrument au sens métaphysique du terme, c'est-à-dire ce par quoi une cause première ou principale agit à travers une cause instrumentale.
Mmh. Oui, comme un vecteur.
Exactement, mmh. Voilà. Comme le Dieu agit en nous transmettant le corps et son sang de son Fils par l'humanité sainte du Christ qui institue le sacrement de l'Eucharistie. Mmh. Voilà. Et ça, c'est ça l'instrumentalité. Et donc, en fait, le Providentissimus adaptait ce schéma-là au rapport entre Dieu et l'auteur sacré, donc du coup, de façon à ce que le résultat soit tout à fait l'œuvre d'un homme, mais sous la motion d'une cause principale qui était Dieu.
Oui. Il faut qu'on mentionne cette grande encyclique du Concile Vatican II, Dei Verbum, en 1965.
Oui. Voilà, alors du coup, on voit bien, Dei Verbum, alors qui est une constitution conciliaire. Qu'encyclique, c'est l'œuvre d'un pape, tandis que là, c'est le concile vraiment qui a publié ça, sous la responsabilité, avec la responsabilité du pape Paul VI. Donc ça, c'est un texte extraordinaire, vraiment qui a eu une postérité immense, parce qu'à la fois, il prenait acte de toute cette dignité, entre guillemets, humaine de la composition du texte, en même temps, ajoutait quelque chose qu'il fallait rapporter, à savoir que l'écriture doit aussi être comprise à la lumière de l'esprit qui les a inspirés. Et que, il pourrait y avoir une tentation, enfin, ou plutôt une tentation, une manière pas juste de comprendre la théorie instrumentale de l'inspiration, qui dirait que tout ce que Dieu a voulu dire, ce serait dans la subjectivité de l'instrument humain que ça serait transmis. Et dans ce cas-là, il n'y aurait plus que le sens littéral, en quelque sorte, puisqu'il n'y aurait plus que ce que l'auteur humain aurait voulu y mettre, hein, qui déterminerait tout le contenu des Écritures. Et on dirait, c'est à titre d'instrument de Dieu qu'il a fait ça. Or, pour couper court à cette interprétation qui n'est pas exacte, Dei Verbum a dit « La causalité instrumentale n'épuise pas le sens de l'Écriture ». C'est-à-dire que Dieu, l'Esprit-Saint, reste l'auteur de l'Écriture, envers et contre tout. Et donc, il y a une sorte de plénitude de sens qui lui vient aussi de son auteur divin et qui échappe même aux auteurs sacrés. Voilà. Mmh. Dei Verbum a vraiment rappelé cette notion de manière très, 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 très profonde, enfin, vraiment très, très précise, avec toute une vision ecclésiologique, c'est-à-dire que les Écritures sont, en quelque sorte, conservées, transmises, intelligées par l'Église dans son ensemble, donc sous la garde du magistère authentique, donc du discernement inspiré des pasteurs de l'Église pour comprendre ce que l'Écriture veut nous transmettre. Et on ne peut pas, à aucun moment, on ne peut se cantonner à une interprétation purement littérale de l'Écriture. Elle est indispensable, mais elle ne peut pas tout dire.
Est-ce que, pour terminer, l'exhortation apostolique publiée par le pape Benoît XVI en 2010, Verbum Domini, reprend cette même ligne de Dei Verbum?
Oui, alors justement, vraiment, le Verbum Domini, qui fait une exhortation post-synodale, parce que le pape Benoît XVI avait convoqué un synode des évêques sur la parole de Dieu, et donc a abouti à ce très beau texte, auquel Benoît XVI donnait beaucoup d'importance. Lui, il insiste énormément, dans une allocution qu'il a donnée en particulier auprès de la Commission biblique pontificale au moment de la publication de l'exhortation post-synodale, il insiste sur cette synergie divino-humaine, hein, comme il dit, l'auteur sacré, et aussi il rappelle bien entendu Dei Verbum, à savoir il faut lire et interpréter l'Écriture à la lumière du même esprit qui les a fait rédiger. Il donne en fait pour cette lecture complète un triple critère. Il dit c'est que d'une part il faut avoir part à l'unité de l'Écriture dans son ensemble, parce que cette unité, c'est le Christ lui-même, hein, puisque le Christ, chez saint Luc, au pèlerin d'Emmaüs, il explique dans les Écritures tout ce qui le concernait.
Oui.
Voilà. Et donc là, d'une certaine manière, le Christ nous donne hein, cette leçon d'exégèse intégrale qui fait l'unité de l'inspiration dans la manifestation du Verbe sauveur hein, et incarné. Le deuxième critère que donne Benoît XVI, c'était la tradition, c'est-à-dire que la tradition, c'est la révélation en tant qu'elle est reçue, en tant qu'elle est donc vivante.
Oui.
Qu'elle n'est pas simplement cantonnée dans un livre
qu'elle
imprimé,
n'est pas figée.
Qu'elle n'est pas figée, mais la tradition, c'est le processus vital même par lequel la révélation inspire et édifie l'Église et fait grandir le dogme et inspire les conversions personnelles, enfin, que sais-je. Voilà. Ça, c'est ça la tradition, au sens où du coup, y a bien une continuité vitale hein, de la réception de l'écriture, qui est évidemment une norme.
Oui.
Cette continuité vitale, elle a inspiré la formulation du dogme de la Trinité, de la dualité du Christ, de dualité de nature du Christ en une seule personne, enfin que sais-je. Donc ces choses-là, c'est des dépôts que l'on ne peut pas remettre en cause, parce que c'est en quelque sorte la tradition vivante de l'Église qui nous donne le sens authentique de l'écriture.
Et le troisième ?
Et puis le troisième, c'est ce qu'il appelait l'analogie de la foi. Ça veut dire que cette même foi nous fait comprendre, par exemple, hein, dans l'Ancien Testament, on nous dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon. Et bien, et donc dans le contexte lévitique, ça se réfère d'abord au peuple des Hébreux. Et puis, dans le Nouveau Testament, quand nous le lisons, que le Christ donne ce commandement-là, eh bien, certainement que, si on le couple avec la parabole du bon samaritain, c'est aussi Jésus qui se fait le prochain de tout homme, y compris de ceux qui ne sont pas en apparence dans le peuple de l'Alliance. Et donc, en quelque sorte, l'analogie de la foi nous fait dire que ce commandement de l'amour du prochain, il a évolué depuis son sens, d'ailleurs déjà tout à fait admirable dans le Lévitique, jusqu'à son accomplissement dans le Christ, qui lui donne un sens supérieur. Bon, donc cette analogie de la foi nous permet là d'avoir un discernement fin du sens ultime des Écritures.
Oui. Pour conclure, frère Renaud Silly, sur toute cette histoire de l'exégèse, aujourd'hui, qu'est-ce que vous diriez de tout cet héritage ?
Alors, c'est un dépôt extraordinaire, parce que vraiment... on sent bien que l'effort rigoureux de compréhension de la parole de Dieu ne peut pas ne pas porter des fruits. Là où l'œuvre d'un Benoît XVI est très précieuse, c'est que voilà, de Verbum Domini, c'est qu'il nous dit que tous ces apports trouvent, y compris scientifiques rigoureux, trouveront vraiment leur application ultime dès lors qu'on les relie à la lumière des trois critères hein, que nous venons tout ça, ça peut paraître parfois dur, même parfois desséchant, hein, qui sait que, parce que c'est sûr, quand vous avez comme ça des décortiquages de textes, des machins, etc., des comparaisons avec l'archéologie, ça peut paraître parfois quand même difficile, quoi, comme discipline.
Oui, ardu.
Et puis que ça exige, ça mobilise une somme de connaissances qu'on ne peut pas avoir. Bon. Mais en réalité, on constate que ce dépôt extraordinaire, si on l'intègre dans cette vision intégrale de la révélation que l'Église nous transmet, eh bien, tout trouvera sa place. Y compris les choses les plus, parfois même les plus rebutantes, parfois les plus complexes, au sens où il y a vraiment que Dieu assume en quelque sorte hein, tout ce labeur humain pour s'approprier les Écritures. Et ça, c'est un trésor, parce que ça permet aussi de renouveler les approches, ça permet de donner plus d'actualité parce que notre monde n'est pas celui d'origine, et même nos références culturelles ne sont pas les mêmes.
Ah oui, évidemment.
Bon,
ouais.
Donc, de toute façon, ça doit toujours être repris. Hein. Ce dépôt nous aide à faire face aux défis de notre temps et de ceux qui vont venir.
Merci beaucoup, frère Renaud Silly. Vous avez présenté aujourd'hui l'histoire de l'exégèse. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.